Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 70 d'Af Ayin. Bonne écoute et bon limoud.
Venahagu bene kufra, et les loueurs de bateaux ont pris l'habitude. La Gemara appelle bene kufra les loueurs de bateaux parce qu'ils avaient l'habitude d'enduire les bateaux de poids pour les rendre étanches. Agra Beshat Meshicha, de prendre le prix de la location du bateau à l'avance au moment où le locataire le tire vers lui pour commencer à l'utiliser. Pagra Beshat Shvira, et lorsqu'il se cassait, ils exigeaient aussi que le locataire rembourse sa valeur initiale, donc au moment de sa location. Et cela parce que, comme l'explique le Meiri, les loueurs de bateaux voulaient éviter des réclamations de la part des locataires en demandant à la fois le prix de la location et le remboursement du bateau. Et c'est pour cela qu'ils exigeaient que la location soit payée à l'avance. Alors la Gemara demande à Tu Beminhaga Talia Milta, est-ce que cette chose peut dépendre d'une habitude? En d'autres termes, s'il était interdit à la fois d'exiger le prix de la location et la responsabilité du locataire de rembourser le bateau s'il se cassait en cours de route, comment se fait-il que l'habitude des loueurs de bateaux puisse permettre une chose pareille? La Gemara répond, Mishum de Matnita Tanya, puisqu'il a été enseigné dans une braïta que nous avons mentionné plus haut, qu'il est permis à la fois de demander le prix de la location et d'exiger la responsabilité du locataire, Minhaga, les loueurs de bateaux ont pris cette habitude. Mais ils ont pris aussi l'habitude, comme nous l'avons expliqué, d'exiger le paiement de la location à l'avance. Nous avons fini ici le shiur de Baba Metzia Daf Samertet. Nous commençons le shiur de Baba Metzia Daf Ayin à la quatrième ligne du haut de la page. Amar Ravanan Amar Shmuel, Maot shel yotomim, de l'argent appartenant à des orphelins, Mutar l'alvotan beribit, il est permis de le prêter avec intérêt. Amar le Rav Nachman a dit à Ravanan, Mishum diatmeninu, puisque ce sont des orphelins, sa fina le huissoura, on leur donne à manger quelque chose qui est interdit. Sachez-le que yatme deachle de l'avdidou, des orphelins qui mangent quelque chose qui ne leur appartient pas. Donc par exemple, de l'intérêt qu'ils n'ont pas le droit d'encaisser, Lizlou Batar Shivkayou, ils n'ont qu'à suivre leur père qui leur a laissé cet héritage. En d'autres termes, qu'ils meurent comme leur père. Amarle, Rav Nachman a dit à Ravanan, Emali Izu Gufa Duvda Hechiava. Raconte-moi comment s'est passée l'histoire sur laquelle tu t'appuies pour dire que Shmuel a permis de prêter de l'argent des orphelins avec intérêt. Amarle, Ravanan lui a répondu, Hahu Duda de Bne Mar Ukva. Voici, il y avait un chaudron qui appartenait aux enfants de Mar Ukva qui étaient décédés, de Hava Ber Mar Shmuel, qui se trouvait dans la maison de Shmuel. Il se conduisait ainsi, Takil via Ivle, il le pesait avant de le louer, Takil ve Shakil le, et il le pesait quand il le recevait en retour. Shakil Agra, il demandait le prix de la location de ce chaudron, ve Shakil Parta, et il exigeait aussi que le locataire le dédommage pour le cuivre qui a diminué par l'usure. Alors la question se pose, Iagra, si Shmuel exigeait le prix d'une location pour ce chaudron, l'oparta, il ne devrait pas avoir le droit d'exiger qu'on le rembourse pour le cuivre qui a diminué, parce que finalement, cette usure provient d'une utilisation normale, et c'est d'ailleurs pour cette usure que le locataire paye le prix de la location, vei parta, et si Shmuel exigeait qu'on le rembourse pour l'usure du cuivre, l'oagra, il ne devrait pas avoir le droit d'exiger le prix de la location. Parce que si le locataire est responsable de l'usure du cuivre, finalement donc, il garantit le capital de cette location. Il se trouve donc que la valeur de ce chaudron est considérée comme un prêt chez ce locataire. Il devrait donc être interdit d'exiger le prix de la location, parce que celui-ci serait considéré comme un intérêt. Ravanan conclut, c'est donc de là que j'ai déduit que Shmuel a permis de prêter de l'argent des orphelins avec intérêt. Amarle, Rav Nachman lui a répondu, Kiha, dans un cas pareil, Afilu Bediknane, même s'il s'agit de personnes barbues, c'est-à-dire de personnes adultes qui ne peuvent pas être considérées comme orphelins, Nami Sharel et Mevad, ils ont le droit d'agir ainsi. Et cela, Deha Mekable Alayhu, Khusra Denarcha, parce qu'ils acceptent quand même l'usure du cuivre, des Kama de Mikle Narcha, parce que plus le cuivre est brûlé par le feu, Batir de Me, sa valeur est moindre. C'est-à-dire, même s'il n'acceptait pas l'usure du cuivre en poids, le propriétaire acceptait quand même l'usure du cuivre en valeur. Par conséquent donc, le locataire ne garantit pas totalement le capital. Par conséquent, la valeur de celui-ci ne sera pas considérée comme un prêt chez le locataire. Sa location donc sera permise. Amar Rabba Bar Shila Amar Rav Chisda. Ve'amrela, et il y a qui disent que Amar Rabba Bar Yosef Bar Chama Amar Rav Sheshet, que c'est Rabba le fils de Rav Yosef, le fils de Chama, qui a dit au nom de Rav Sheshet, Maot Shel Yotomim, de l'argent appartenant à des orphelins, Mutar la Alvotan, il est permis de les prêter dans un cadre d'un investissement, de manière à ce que Karov l'Eschar, que le bénéfice soit proche, Verachok l'Efsed, et que la perte soit loin. En d'autres termes, il est permis d'investir de l'argent appartenant à des orphelins, de manière à ce que la personne qui s'occupe de cet investissement s'engage à garantir entièrement le capital et à partager les bénéfices avec les orphelins. Et cela parce que même si nous avons expliqué que lorsque la personne qui s'occupe d'un investissement garantit le capital, nous considérons cela comme un prêt, par conséquent, les bénéfices sont considérés comme un intérêt qui est interdit. Cependant, cet intérêt est interdit uniquement midrabanan. Dans le cas d'orphelin, les chachamim l'ont permis pour qu'ils aient de quoi se nourrir sans gaspiller leur héritage. Tanu rabanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Celui qui investit de l'argent de manière à ce que karov l'eschar, les bénéfices sont proches, verachok l'efsed, et la perte est loin, c'est-à-dire il investit son argent de manière à ce que la personne qui s'occupe de cet investissement garantit entièrement le capital et partage les bénéfices avec l'investisseur, Racha est un mécréant parce qu'il transgresse une interdiction des Rabbanan, comme nous l'avons expliqué, que la partie garantie par la personne qui s'occupe de l'investissement est considérée comme un prêt. Par conséquent, tous les bénéfices que l'investisseur reçoit au-dessus de la part qu'il garantit lui-même sont considérés comme des intérêts qui sont interdits. C'est pour cela qu'il est considéré comme mécréant. D'ailleurs, même si l'investisseur reçoit une part de bénéfice égale à la partie du capital qu'il garantit lui-même, sans payer de salaire à la personne qui s'occupe de l'investissement, comme nous l'avons expliqué plus haut, Daf Samechet Amud Bet, ces bénéfices seront considérés comme un intérêt interdit par les Chachamim, et l'investisseur sera considéré comme mécréant. Mais celui qui investit de l'argent de manière à ce que Karov l'Efsed, l'investisseur est proche de la perte, Verachok l'Eschar, est loin du bénéfice, c'est-à-dire, si par exemple l'investisseur garantit la totalité du capital, mais il partage les bénéfices avec la personne qui s'occupe de l'investissement, Hassid, cet investisseur, sera considéré comme pieux. D'ailleurs, il méritera ce qualificatif dans toutes circonstances où l'investisseur s'accorde une part de bénéfice plus petite que celle instituée par les Chachamim. Karov lezé ou lezé, si une personne investit de l'argent de manière à être à la fois proche de la perte et des bénéfices, c'est-à-dire dans une situation où il garantit les deux tiers du capital et il partage équitablement les bénéfices avec la personne qui s'occupe de cet investissement, c'était d'ailleurs l'une des possibilités permises par les Chachamim, comme nous l'avons vu plus haut d'Af Samechet Amud Bet, ou bien Rachok misé ou misé, ou bien si une personne investit de l'argent de manière à être à la fois loin de la perte et des bénéfices, c'est-à-dire dans une situation où l'investisseur garantit la moitié du capital, mais il ne s'accorde que le tiers des bénéfices, c'est aussi une des possibilités que nous avons mentionnées plus haut d'Af Samechet Amud Bet, Zui Midat Kol Adam, ceci est la mesure de tout homme, c'est-à-dire c'est la manière que toute personne devra employer pour investir de l'argent sans transgresser d'interdiction de Chachamim. À Marley, Rabba le Rav Yosef, Rabba a posé la question suivante à Rav Yosef, Hanezouze diatme, Hechi Abdinan Lehu, que fait-on avec l'argent des orphelins pour ne pas que leur fortune soit gaspillée? À Marley, Rav Yosef lui a répondu, Motvinan Lehu Bedina, on dépose cet argent au tribunal, Bihabinan Lehu Zouza Zouza, et on leur donne cet argent Zouz par Zouz, c'est-à-dire on leur donne cet argent petit à petit, lorsqu'ils ont besoin, par exemple, d'acheter de la nourriture ou d'autres choses. À Marley, Rabba a posé la question suivante à Rav Yosef, Veha Kakalia Karna, si on agit ainsi, leur fortune disparaîtra, parce qu'ils n'ont aucune manière de gagner de l'argent. À Marley, Rav Yosef lui a demandé, Mar Heriavid, comment est-ce que fait mon maître, donc Rabba, pour garder la fortune des orphelins? À Marley, Rabba lui a répondu, Badkinan Gavra de Itle Zahava Pricha, on recherche une personne qui possède de l'or en petits morceaux. Ainsi, nous sommes persuadés que cet or lui appartient réellement Et il ne s'agit pas d'un dépôt, parce qu'en général, on ne dépose pas de l'or en petits morceaux, parce que celui-ci ne possède pas de signe distinctif, voir le Nimuke Yosef. Ainsi, nous avons la possibilité de garantir le capital si celui-ci subit une perte. Venaktinan d'Avamine, et on lui prend cet or comme garantie, via Vinan Lehu Niale, et on donne cet argent appartenant aux orphelins à cette personne comme investissement, de manière à ce que Karob Leshar Verachok Levsed, à ce que celui-ci s'approche du bénéfice et loin de toute perte. C'est-à-dire, on l'oblige d'accepter de garantir la totalité du capital et de partager les bénéfices avec les orphelins. Comme nous l'avons dit, plus haut c'était permis. Ainsi, nous pourrons à la fois garder leur fortune qu'ils pourront utiliser lorsqu'ils seront adultes, et d'autre part, ils auront de quoi se nourrir entre-temps. Aval davar mesuyam, mais si cette personne ne possède pas d'or en petits morceaux, mais possède uniquement des objets ayant des signes distinctifs, l'eau, on ne pourra pas les prendre comme garantie pour investir chez lui l'argent appartenant aux orphelins. Et cela parce que Dilma Pikadoninu, peut-être que cet objet ne lui appartient pas réellement, mais en fait c'est un objet qui lui a été déposé. Ve'ate mare yahiv simanin, et plus tard le propriétaire de cet objet viendra réclamer cet objet, comme explique le Tosfot en amenant des témoins qu'il avait déposé cet objet chez lui et en donnant les signes distinctifs de celui-ci, Veshakille, et il le reprendra. Et finalement, nous aurons perdu la garantie de ce capital. Amar Ravashi, Ravashi a posé la question suivante. Tinach imishtekar gavra deitle dava pricha. C'est bien si nous trouvons une personne qui possède de l'or en petits morceaux. C'est cette personne que nous choisirons pour investir l'argent des orphelins. Mais ilo mishtekar gavra deitle dava pricha. Mais si nous ne trouvons pas deux personnes possédant de l'or en petits morceaux, est-ce que les orphelins vont manger et utiliser leur fortune en la gaspillant? Finalement, qu'est-ce que nous ferons pour préserver leur fortune? Et là, ma Ravashi, c'est pour cela que Ravashi a dit, Chazinan gavra de meshapu nirse, nous chercherons une personne dont les biens sont calmes, c'est-à-dire sur lequel il n'y a pas eu de réclamation concernant les biens qu'il possède, ou Meheman, et c'est un homme de confiance, Veshama Dina Doraita, et il suit les jugements tranchés par les juges selon les lois de la Torah, c'est-à-dire même lorsqu'il est attaqué en justice, il suit ce que les juges disent, Velo Mekabel Shamta de Rabanan, et il n'a jamais été excommunié par les Chachamim parce qu'il n'a pas suivi un jugement. C'est cette personne que nous choisirons via Vinan Lehu Nihale Bebedina, et on donne à cette personne cet argent pour l'investir au tribunal, c'est-à-dire en présence des juges du tribunal. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir d'exproprier les biens de la personne qui reçoit cet investissement pour s'en occuper, de manière à garantir le capital en cas de perte. Et ce n'est que le tribunal qui a le pouvoir d'investir cet argent des orphelins, de manière à ce que celui-ci soit loin de la perte et proche du bénéfice. C'est-à-dire donc que cette personne garantisse entièrement le capital et partage les bénéfices avec les orphelins. Nous tournons la page à Daf Ayin Amoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Ayin Amoud Bet. Nouvelle Mishnah. En mekablin tzon barzel mi Israël. Il est interdit à un éleveur de recevoir un troupeau d'un Israël pour l'élever et pour partager ensuite les bénéfices, s'il garantit la totalité du capital. Mipnei Sheuribit, parce que lorsque le propriétaire reçoit les bénéfices, cela est considéré comme un intérêt qui est interdit. Parce que comme nous l'avons expliqué précédemment, lorsque l'éleveur accepte de garantir la totalité du capital, nous considérons la valeur de ce troupeau comme étant un prêt chez l'éleveur. Donc lorsqu'il donne des bénéfices au propriétaire, il lui a donné des intérêts en échange du prêt qu'il a reçu. La Mishnah illustre le fait que l'éleveur garantit la totalité du capital par le fer, qui est inaltérable. En fait, cette partie de la Mishnah n'est pas un chidouche, parce que nous pouvons l'apprendre de la Mishnah précédente, où nous voyons, ou même lorsque la personne qui s'occupe d'un investissement garantit uniquement la moitié du capital, le propriétaire n'a pas le droit de recevoir des bénéfices sans payer un salaire à la personne qui s'occupe de cet investissement, soit en lui accordant une plus grande part dans les bénéfices, soit en lui payant un salaire, comme nous l'avons vu plus haut. Donc à plus forte raison que ce sera interdit lorsque l'éleveur garantit la totalité du capital. Cependant, le chidouche est la suite de la Mishnah, qui dit « Aval mekablim tson barzel minakum » mais il sera permis de recevoir un troupeau à élever d'un goy pour partager avec lui les bénéfices, même lorsque l'éleveur garantit la totalité du capital. « Velovin mehem umalvin otan beribit » et il est aussi permis de leur emprunter donc d'un goy de l'argent avec intérêt et de leur prêter de l'argent avec intérêt. Et cela parce que, comme l'explique le Ramban dans Dvarim Kaf Gimel, en fait, l'intérêt n'est pas considéré comme un vol parce qu'il est donné avec l'accord des deux parties. Cependant, la Torah a interdit de prêter avec intérêt à Israël parce que les Bnei Israël doivent se considérer mutuellement comme membres d'une seule famille qui s'entraident mutuellement sans rémunération quand l'un d'eux est dans le besoin. Et c'est pour cela donc que la Torah a ordonné aux Bnei Israël de prêter sans intérêt, mais cette mitzvah n'existe pas concernant le goy. Vechen beger toshav, et la halakha sera de même concernant le goy qui est venu habiter parmi les Bnei Israël sans se convertir, mais en acceptant d'observer les sept mitzvot ordonnées au fils de Noach, donc notamment de ne pas commettre l'idolâtrie. Il sera donc permis de prêter ou d'emprunter à cette personne de l'argent avec intérêt. Et cela, même si la Torah a ordonné de l'aider lorsqu'il est dans le besoin, mais la Torah n'a pas ordonné de le faire gratuitement. Malvé Yisrael ma'otav shelakum midata akum. Un Israël aura le droit de prêter à un autre Israël de l'argent appartenant à un goy avec l'avis du goy, donc du créancier. C'est-à-dire, lorsque nous pouvons considérer que le premier débiteur a remboursé sa dette au goy, et ce dernier prête cet argent à nouveau au second Israël. La Gemara expliquera. Aval l'omidat Israël, mais un Israël n'aura pas le droit de prêter de l'argent appartenant à un goy de son propre chef, c'est-à-dire sans l'avis du goy et sans que nous puissions considérer qu'il a remboursé sa dette au goy de manière à considérer que c'est le goy qui a prêté l'argent directement au second Israël. La Gemara reprend le premier passage de la Mishnah qui enseigne qu'il est interdit d'accepter un troupeau de menu bétail d'un Israël pour l'élever et pour partager les bénéfices si l'éleveur garantit la totalité du capital de ce troupeau. Alors la Gemara constate, les Memra, nous pouvons donc déduire de la Mishnah, de Birshuta de Mekabel Kaima, que ce troupeau est considéré comme étant dans la possession de l'éleveur. Et c'est pour cela donc que le propriétaire n'a pas le droit de recevoir des bénéfices, parce que ces bénéfices seraient considérés comme un intérêt. En fait, comme l'expliquent le Maharam et le Pnei Yehoshua, sans la Mishnah, on aurait pu comprendre que même lorsque l'éleveur garantit la totalité du capital de ce troupeau, même si celui-ci est considéré comme étant en possession de l'éleveur, mais ce troupeau reste aussi la possession du propriétaire. Par conséquent, on aurait pu croire que tout bénéfice arrivant tout seul, sans travail de l'éleveur, par exemple la laine et les petits produits par ce troupeau qui arrivent tout seul, pourraient être partagés équitablement entre l'éleveur et le propriétaire. Cela ne serait pas considéré comme un intérêt. Et la Mishnah précédente n'interdirait que les bénéfices arrivant par le travail de l'éleveur, parce que c'est ce travail fourni par l'éleveur qui est considéré comme un intérêt. Maintenant que la Mishnah interdit au propriétaire de recevoir même les bénéfices arrivant tout seul, forcément donc, nous considérons ce troupeau entièrement en possession de l'éleveur. En Veraminu, on a opposé à cela une Mishnah dans Bechorot Daf Tetzain. La Mishnah dit, Hamekabel tson barzel min anochim, celui qui reçoit d'un goy un troupeau à élever pour partager les bénéfices lorsque l'éleveur garantit la totalité du capital, vladot pturim min abchora. Les petits qui naissent de ce troupeau seront exemptés du fait que leur premier-né soit offert au Kohen. Et cela, parce que ce n'est que le Israël qui a l'obligation d'offrir les premiers-nés de son troupeau au Kohen, mais le goy n'a pas cette obligation. Donc un Israël qui serait partenaire avec un goy dans un troupeau, sera aussi dispensé d'offrir le premier-né de ce troupeau au Kohen. Alors ce que la Mishnah nous enseigne, c'est que non seulement l'éleveur sera dispensé d'offrir le premier-né du troupeau qu'il a reçu du goy au Kohen, mais il sera aussi dispensé d'offrir au Kohen les premiers-nés des petits qui sont nés de ce troupeau. Forcément donc, c'est parce que nous considérons ce troupeau que cet éleveur a reçu comme étant en possession du propriétaire, donc du goy. Parce que si c'était l'éleveur qui était considéré comme le propriétaire de ce troupeau, cet éleveur aurait dû au moins offrir au Kohen les premiers-nés des petits qui sont nés de ce troupeau. Nous avons donc une contradiction entre la Mishnah de Masechet Bechorot et notre Mishnah selon laquelle c'est l'éleveur qui est considéré comme le seul propriétaire de ce troupeau. La Gemara répond à Amar Abaye. La Kashia, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah de Masechet Bechorot et notre Mishnah. Ha de Mekabel Ale Unsa Vezula. Dans Masechet Bechorot, il s'agit d'un cas où l'éleveur n'avait pas garanti la totalité du capital de ce troupeau, mais en fait c'est le goy qui a accepté de subir les pertes de ce troupeau en cas de force majeure, par exemple dans le cas où ce troupeau serait décimé par la peste, et aussi le propriétaire et le goy a accepté de subir les pertes en cas de baisse de la valeur de ce troupeau. C'est pour cela donc qu'il est considéré comme partiellement propriétaire de ce troupeau, et l'éleveur sera exempté d'offrir le premier-né des petits qui sont nés de ce troupeau au Kohen. Ha de lo kabil aleh unsa vezula. Mais dans notre Mishnah, il s'agit d'un cas où l'éleveur garantit la totalité du capital de ce troupeau, parce que le propriétaire n'a pas accepté de subir de pertes, même en cas de force majeure, ou dans le cas où ce troupeau perdrait de sa valeur. Et c'est pour cela donc que c'est l'éleveur qui est considéré comme le seul propriétaire de ce troupeau. Par conséquent, le propriétaire n'aura pas le droit de recevoir de bénéfices. Amarle, Rava. Rava a objecté à Abaye. Ide kabil aleh mara unsa vezula. Si dans la Mishnah de Masechet Bechorot, il s'agit d'un cas où le propriétaire a accepté de subir des pertes, dans un cas de force majeure ou dans un cas où la valeur du troupeau baisse, son barzel karitle, peut-on nommer ce troupeau comme troupeau de fer, donc dont le capital est garanti? Veod, et en plus, ad etane sefa. Avant d'enseigner dans la fin de notre Mishnah, aval mekablin son barzel mina akum, qu'il est permis de recevoir d'un goy un troupeau à élever pour partager les bénéfices lorsque l'éleveur garantit la totalité du capital, l'iflog bedide, la Mishnah aurait dû enseigner la différence dans le cas d'un Israël, en disant ainsi, bam edvarim amurim, quand ces choses sont dites, que l'éleveur n'a pas le droit d'accepter un troupeau à élever pour partager ensuite les bénéfices, de lo kabil aleh unsa vezula. C'est uniquement dans le cas où le propriétaire n'a pas accepté de subir de pertes en cas de force majeure et en cas où la valeur du troupeau baisse. Aval kabil mara unsa vezula. Mais lorsque le propriétaire accepte de subir des pertes en cas de force majeure ou en cas de baisse de la valeur de ce troupeau, shapir dami, c'est bien. C'est-à-dire, cet accord est permis et le propriétaire aura le droit de recevoir des bénéfices. Finalement, il est impossible de répondre à cette question de cette manière. Et là, Marava, c'est pour cela que Rava dit, il dit, veidi, dans les deux cas, donc, soit dans la Mishnah de Masechet Bechorot et soit dans notre Mishnah, de lo kabil aleh mara unsa vezula. Il s'agit d'un cas où le propriétaire n'a pas accepté de subir de pertes en cas de force majeure et en cas de baisse de la valeur du troupeau. De gabe Bechorot, mais concernant la Mishnah de Bechorot, haynu tam devladot pturim mina Bechora. C'est cela la raison pour laquelle l'éleveur sera dispensé d'offrir le premier-né des petits qui sont nés de ce troupeau au Kohen. Ce n'est pas donc parce que le propriétaire du troupeau qui a été donné à élever est toujours considéré comme étant propriétaire de ce troupeau, mais plutôt parce que Kivan de Iloyahib Zuzé, dans le cas où le goy réclame la contre-valeur de ce troupeau comme il a été convenu, si l'éleveur ne lui paye pas en espèces comme il a été convenu, Ate Nochrit Afisla le Behema, le goy a le droit de saisir l'animal qu'il a donné à élever à cet éleveur. Ve Ilo Mashkarla le Behema, et s'il ne trouve pas cet animal parce qu'il est mort par exemple, Tafis le Hule Vladot, il a le droit aussi de saisir les petits de cet animal qu'il a donné à élever. Finalement donc, Vahavele Yad Nochri Baemtsa, il se trouve donc que le goy a un droit sur la totalité de ce troupeau, même sur les petits qui sont nés du troupeau d'origine. Vahol Yad Nochri Baemtsa, et dans toute situation où le goy a un droit sur le troupeau appartenant à Israël, Patur Mina Bechora, celui-ci est dispensé d'offrir le premier-né au Kohen. La Gemara ramène un pasouk dans Mishle Kafret pour l'interpréter. Le pasouk dit, Marbe hono benesher vetarbit, celui qui augmente sa fortune par le prêt avec intérêt. Nous avons vu au début de ce perek que les termes de nesher et tarbit veulent dire tous les deux l'intérêt, donc le prêt avec intérêt. Le chonen dalim yikabtenu, cette fortune qu'il a amassée est destinée à la personne qui donne gracieusement la charité aux pauvres. En d'autres termes, cette fortune qu'une personne amasse en prêtant de l'argent avec intérêt lui sera retirée et sera donnée à la personne qui donne la charité aux pauvres. Alors la Gemara demande, Mai le Chonen Dalim, que veulent dire ces termes à la personne qui donne gracieusement la charité aux pauvres? En d'autres termes, qui méritera de recevoir cette fortune? L'Agma répond à Marav, Kegon Shavur Malka. Ce pasouk fait allusion à une personne comme le roi Shavur, qui était le roi des Perses, qui avait en effet l'habitude de confisquer de l'argent au Bnei Israël pour le donner ensuite à des goyim qui sont considérés pauvres concernant l'accomplissement des mitzvot, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'accomplir des mitzvot. Donc finalement, ce que ce pasouk voudrait dire, que cet argent qu'une personne a amassé en prêtant de l'argent avec intérêt, lui sera confisqué par le gouvernement et sera donné par la suite à des goyim qui sont considérés pauvres concernant l'accomplissement des mitzvot. Amar Rav Nachman, Amar Lehuna, Huna m'a dit, lo nitzrecha, ce pasouk n'a besoin de nous enseigner cela. Donc que la fortune de la personne qui a prêté avec intérêt lui sera retirée. Et là, de filu ribit de Oved Kochavim. Que pour nous dire que même la personne qui s'est enrichie en prêtant avec intérêt au goyim, il perdra aussi sa fortune. Et tu veux, Rava le Rav Nachman, Rava a opposé un pasouk à Rav Nachman. Le pasouk dit en effet dans Dvarim Kaf Gimel, l'anochri tachir. Cette phrase est ambiguë. Elle peut vouloir dire qu'il est permis de prêter avec intérêt au goy, et aussi cette phrase peut vouloir dire qu'il est permis de lui emprunter de l'argent avec intérêt. Alors c'est pour cela que Rava questionne, Mai tachir. Que veut dire ce terme de tachir? Lav tishor, n'est-ce pas que le pasouk veut dire tu as le droit de mordre le goy, donc de lui prêter avec intérêt? Rav Nachman lui répond, lo, ce n'est pas cela que le pasouk veut dire, tachir. Tu as le droit de te laisser mordre par un goy, en d'autres termes, tu as le droit de lui emprunter de l'argent avec intérêt. La Gemara demande, lo sage de lavachi, n'a-t-il pas le choix de faire autrement? En d'autres termes, a-t-il l'obligation d'emprunter du goy avec intérêt? Parce que si le pasouk voulait simplement nous dire qu'il est permis d'emprunter du goy avec intérêt, ce pasouk est superflu. Parce que si le pasouk n'a pas interdit au goy de prêter avec intérêt, il sera donc permis de lui emprunter de l'argent avec intérêt. Donc forcément, ce que le pasouk voudrait nous dire, qu'il serait obligé de lui emprunter avec intérêt, ce qui n'est pas logique. L'Agma répond, le pasouk vient nous dire qu'il est permis d'emprunter du goy avec intérêt, la fouke achicha de l'eau, pour exclure ton frère, duquel il sera interdit d'emprunter avec intérêt. L'Agma demande, achicha behedia katavbe, à propos de ton frère, le pasouk a écrit clairement, ou le achicha lotashir, ne te laisse pas mordre par ton frère, en d'autres termes, ne lui emprunte pas de l'argent avec intérêt. L'Agma répond, il est vrai que le pasouk nous le dit clairement, mais le pasouk le répète à nouveau par cette allusion. Quand le pasouk dit, tu as le droit d'emprunter de l'argent du goy avec intérêt, et de là nous déduisons donc qu'il est interdit de l'emprunter de l'argent avec intérêt d'un Israël, là avor alav be'ase velota ase. Ainsi, celui qui emprunte de l'argent avec intérêt transgresse un commandement positif et un commandement négatif. Et tibé, Rava a posé une nouvelle question à Rav Nachman à partir de notre Mishnah. En effet, la Mishnah dit, lovim mehen ou malvin otam beribit. Il est permis de leur emprunter donc des goyim de l'argent avec intérêt, il est permis aussi de leur prêter de l'argent avec intérêt. Vechen beger toshav, la loi sera la même pour le goy qui est venu habiter parmi les Bnei Israël, sans se convertir, mais en acceptant d'observer les sept mitzvot des Bnei Noach, notamment de ne pas commettre l'idolâtrie. Donc il sera aussi permis de lui prêter de l'argent avec intérêt. En tout cas, nous voyons clairement dans notre Mishnah qu'il est permis de prêter de l'argent à un goy avec intérêt. L'Agma répond, Amar Rav Chia Bered Rav Huna, lo nitzrecha, la Mishnah n'a eu besoin de nous enseigner cela qu'il est permis de prêter de l'argent au goy avec intérêt. Et là, uniquement pour permettre le prêt avec intérêt, nous passons à Dafayin Aleph Amoud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Dafayomi quotidiennement en vidéo.